R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bienvenue au Tic Tic Tour.
Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le début du Toxic Tour. Moi, je fais juste un tout petit mot d'introduction pour vous dire je travaille à La Gaîté Lyrique et c'est dans ce cadre-là qu'on a initié ce Toxic Tour. Il vient clôturer en fait un cycle de rencontres qui s'appelle « Ce qui dépend de nous » où depuis février, on a traité pas mal de questions liées à la crise écologique à laquelle nous sommes confrontés. Et on est passé du côté, enfin, on est allé voir un peu les histoires de l'Anthropocène, on a étudié la question de l'écocide, et tout ça à travers des performances, des conférences et des rencontres. Et c'était important aussi de pouvoir terminer ce cycle à l'extérieur, dans un lieu où peut-être beaucoup d'entre vous habitent aussi. Et pouvoir. Et donc là, on a repris cette idée des Toxic Tours, qui est quelque chose qu'on n'a pas du tout inventé, bien sûr, qui vient plutôt des États-Unis. Mais je vais laisser aussi la parole à Jade, qui va pouvoir nous le présenter. Et qui avait été aussi réactivé dans le 93 en Seine-Saint-Denis ces dernières années. C'est comme ça, en tout cas, que j'avais connu. Et donc là, juste pour vous dire, la balade, elle va durer à peu près 2 heures, d'ici jusqu'à la cité Gagarine à Romainville. On va faire des stops réguliers avec des personnes qui vont prendre la parole, notamment Sylvain Piron, qui a très activement préparé la balade, et aussi d'autres personnes qui se sont associées aussi à ce tour. Peut-être, Jade, je te laisse la parole pour dire quelques mots sur les Toxic Tours et Toxic Tours.
Un peu Jade, c'est ma maman.
Donc, bonjour à tout le monde. Juste très brièvement, puisque vous êtes là vraiment pour faire le tour du quartier et aller jusqu'à Romainville avec les personnes qui ont préparé le tour. Mais juste pour vous donner quelques références historiques, en fait, les Toxic Tours, donc des tours toxiques, c'est une pratique qui vient des États-Unis, des mouvements pour la justice environnementale, qui sont des mouvements issus eux-mêmes des mouvements des droits civiques, donc de défense des droits des Afro-Américains. Et il se trouve qu'à partir des années 60, 70, 80, et puis après ça s'est développé, 90, 2000 et encore aujourd'hui, s'est développée aux États-Unis la conscience qu'il y avait du racisme environnemental, c'est-à-dire que les personnes racisées, les personnes afro-américaines, afro-descendantes, venues d'Amérique latine, venues d'Asie, etc., avaient plus de risques que les personnes blanches de vivre à côté de lieux fortement pollués, que ce soit des sites de stockage de déchets, des sites de stockage d'armement nucléaire, des décharges, des autoroutes, et qu'à partir de cette prise de conscience-là, il y a tout un travail de community organizing, donc de travail militant très local, en défense de ces communautés, pour défendre leur droit à vivre dans des lieux où l'air est propre et l'eau est propre et les sols ne sont pas pollués, qui s'est développée. Et une des modalités de ces mouvements, qui ont eu plein de modalités d'action, mais une des modalités, ça a été la marche, la balade, c'est-à-dire à la fois de faire venir des personnes extérieures, militants, avocats, responsables locaux, pour venir voir, regarder dans quoi on vit, et puis aussi des instruments, des outils d'empowerment au niveau des quartiers, c'est-à-dire faire partager la connaissance et le désir de faire changer les choses aux autres habitants des quartiers. Donc ces pratiques ont existé et existent toujours dans plein de villes, Los Angeles, New York, Chicago, Détroit, ça s'est étendu en Amérique latine, notamment au Brésil, mais également en Afrique, à Durban, il y a eu Durban en Afrique du Sud, qui est une ville très polluée, il y a eu énormément de toxic tours organisés, ainsi que... au Nigeria, enfin voilà, c'est vraiment une forme qui s'est développée dans plein de pays. Bon, il se trouve que je fais partie, mais avec plein d'autres personnes, d'un petit réseau qui, en effet, en 95, au moment de la COP21, avions réactivé en fait cette forme de Toxic Tour dans l'idée d'attirer l'attention sur le fait que les lieux de pollution dans les quartiers populaires, notamment en Seine-Saint-Denis, sont les lieux où vivent les personnes qui sont les plus vulnérables à la fois à la pollution et à la fois au changement climatique pour des raisons sociales. Et je vous laisserai juste avec un chiffre avant de donner la parole à Sylvain. C'est qu'en 2003, lors de la grande canicule qui a tué, vous vous souvenez, 15 000 personnes en France, en fait, la Seine-Saint-Denis a été le deuxième département le plus touché par la surmortalité. Ça veut dire que c'est un département où les gens sont plus morts qu'ailleurs, et pour cela pour des raisons sociales, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans des logements qui sont de moins bonne qualité que le reste de la moyenne, sont en moins bonne santé, en moins bon suivi médical, pour des raisons liées à la pauvreté, et sont souvent aussi plus isolés. Et donc c'est pour ça qu'on parle de justice environnementale, parce que c'est justice sociale. Les questions de justice sociale, d'inégalité, d'injustice sont inséparables l'expérience de la confrontation à la pollution.
Donc merci à tous d'être venus, c'est un peu impressionnant parce qu'on pensait être un petit comité. Donc Clémence nous a demandé d'organiser quelque chose parce que moi et avec Julie Lefebvre et Daniel Dubreuil qui est ici, on a été assez actifs dans la lutte pour la défense de la forêt de Romainville. Donc on passera à la voir, on verra l'état dans lequel elle est maintenant. Mais on fait un parcours un peu plus long en partant d'ici sur cette logique. À la fois, voilà, on va passer par la rue Gaston-Roussel et après on va remonter. Voilà. Donc on a une demi-heure de marche pure donc avec différents stops pour parler pas simplement de pollution, mais aussi pollution et renouvellement urbain et le lien entre les deux et comment on est dans des. Enfin, vraiment voir une zone industrielle qui se transforme en lieu. Alors je ne dis pas gentrifié, je veux dire embourgeoisé, c'est pour parler français, mais ça revient au même. Donc moi je suis historien, je ne me connais pas du tout en matière de pollution ou d'écologie, donc je ferai des commentaires plutôt historiques, et le micro pour Daniel et Julie parleront aussi. Mais d'autres personnes pourront intervenir, la parole est libre dans cette... Et Francis Rebon qui vient d'arriver dira aussi un mot, voilà, sur différents dossiers. Mais je vais peut-être commencer par le commentaire sur le lieu où nous sommes ici, en faisant un petit commentaire sur la station de métro Raymond Queneau, Bobigny-Pantin, parce que c'est assez intéressant. Raymond Queneau, parce que c'est un hommage, on imagine, à Zazie dans le métro.
L'écrivain
qui a écrit Zazie dans le métro. Mais il n'a pas écrit que ça, en fait. C'est un auteur un peu oublié, un peu méconnu, mais qui est très très intéressant et qu'on peut lire comme un vrai romancier des classes populaires et de l'histoire industrielle du XXe siècle. Et dans ses romans sociaux, il y en a un justement qui s'appelle Loin de Rueil. Et effectivement, on est ici assez loin de Rueil, qui est l'autre côté de Paris. Donc c'est aussi intéressant de réfléchir sur cette polarité Est-Ouest dans l'agglomération parisienne. Voilà. Donc eux est intéressant, peut-être on reviendra peut-être dans la discussion, mais Bobigny-Pantin c'est aussi intéressant. Pantin est en train de devenir une des villes les plus chics de la région parisienne.
Ouais, elle devient 21e arrondissement.
Exactement, c'est le nouveau Brooklyn, donc j'ai mis mon t-shirt New Jersey.
Voilà. Et 25 ans, je suis à Pantin.
Exactement, et ça devient très chic autour du canal, il y a une grande rénovation, donc juste derrière on ne le voit pas, mais on a le canal de l'Ourcq qui était typiquement construit pour être un lieu de transport, puis qui est devenu un lieu assez important dans le développement économique parisien au 19e siècle. Voilà, ça a été, oui. Et qui devient un lieu très chic autour du canal. Et donc c'est dans l'extension de ce autour du canal que le quartier s'embourgeoise. En face, Bobigny, c'est juste là. Donc au coin de la rue, on est à Bobigny, mais c'est un tout petit bout de Bobigny. En fait, là, on est séparé du cœur de Bobigny par le canal, les voies de chemin de fer de la gare de l'Est. On n'est pas du tout à Bobigny. En réalité, juste derrière le Leader Price, c'est Romainville. Ouais. Donc, et là, on va traverser Romainville, qui est la ville oubliée, la ville qui n'aura jamais de station de métro à son nom. Donc vous allez voir, on ne va pas aller jusqu'à la ligne 11, mais dans ce qu'on verra, il y a le prolongement de la ligne 11 qui est en cours, qui pour l'instant... Voilà, qui s'arrête pour l'instant à Mairie des Lilas et qui va être prolongé jusqu'à Place Carnot, puis Montreuil-la-Boissière, Rosny-sous-Bois, mais il n'y a aucune station qui ne portera le nom de Romainville, qui va rester la ville oubliée, qui est un peu le trou de... Donc on va essayer de comprendre pourquoi Romainville est une ville maudite de ce point de vue-là. Donc on va cheminer en partant par la rue Gaston-Roussel. Comme on ne fait pas une boucle, ceux qui ont des vélos peuvent les prendre à la main. Et on fait une pause dans 5 minutes, on peut bavarder entre nous sur le chemin et on fera des petits arrêts avec micro. Et encore une fois, tous ceux qui ont envie de parler peuvent prendre le micro pour intervenir. Voilà, merci à tous et en route. On est là pour admirer la belle vue. Est-ce que Jade, on reprend le micro ?
Oui,
c'est bon. Ah, il est là. Oui, oh, j'avais pas vu.
Voilà, donc ici, nous sommes, on a une super vue pour voir observer la corniche, hein, ce qu'on appelle la corniche des forts, c'est la corniche qui est entre le fort de Romainville avec sa magnifique tour de télécommunication, le fort de Noisy qu'on ne voit pas. Et donc tout ce boisement, c'est cette fameuse, la partie gauche, c'est la forêt qu'on voulait défendre et des éléments qui sont encore sauvés autour du fort. Voilà, donc on va y monter tranquillement. En attendant, juste un point, c'est la colline, donc on est au sud d'une plaine qui est la plaine de France. La partie sud, c'est la zone autour de Bobigny. Moi, juste parce que je fais des sortes de très longue durée, Bobigny, grand centre, grande implantation gauloise. Donc c'est du très ancien et grand village gaulois qui après a été le siège aussi d'une grande villa mérovingienne. Parce que je sais que c'est une héroïne départementale trop méconnue, Ermentrude, qui était, donc on a le testament. Qu'elle a laissé à Saint-Denis, qui possédait toute la zone. Donc c'est en fait c'est un territoire très organisé de Bobigny, Drancy jusqu'à la colline, le flanc de la colline, et qui a été donc, je passe sur les implantations anciennes, mais qui avec l'ouverture du canal de l'Ourcq derrière nous est devenue effectivement une zone industrielle intéressante. Et le point crucial, c'est cette histoire de cette horloge que vous voyez là en face. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Donc c'est un monument à la gloire de Gaston Roussel, on a pris la rue Gaston Roussel, on est chez lui. Gaston Roussel était le fils d'un vétérinaire bourguignon qui avait de l'ambition et qui a voulu venir faire des études à Paris de médecine et qui a notamment fait des études sur une vérification empirique, scientifique, de la pratique de la saignée. Ça paraît ridicule, la saignée, comme pourquoi se prendre du sang pour guérir? En fait, c'est la recherche de Roussel, c'était de montrer que en prélevant du sang, ça provoque une réaction dans l'organisme et le sérum se reconstitue des éléments qui luttent contre l'anémie, qui permettent de lutter contre l'anémie. Et c'est en faisant des tests sur les lapins qu'il a trouvé sa technique. Et Roussel s'est retrouvé en 1910, ici à Romainville, à être vétérinaire des chevaux des omnibus parisiens, la Compagnie Générale des Omnibus. On est vraiment à la fin du moment où les derniers omnibus sont tirés par des chevaux. Et le grand dépôt des chevaux, c'est là. Les écuries sont juste derrière. C'est assez intéressant d'avoir ça en tête. Donc c'est là exactement la fin d'une vieille technique de traction animale. Et Roussel s'occupe des chevaux et, ayant les chevaux en main, fait ses expérimentations et prélève du sérum de cheval et invente un médicament contre l'anémie à base de sérum de cheval. Voilà. C'était là dans les écuries qu'il a fait construire. Et donc la tour date de 1920 à peu près, qui est donc l'entrée monumentale des grandes écuries de Gaston Roussel, qui après a inventé, a développé d'autres choses, est passé à la chimie dans les années 1920. Et donc toute la partie qui est là, là c'est le côté écurie, entre cette rue qui était anciennement la rue de Noisy, c'est la rue de Pantin à Noisy, et l'autre rue qui était la grande avenue, la nationale, qui s'appelait route de Meaux et qui s'est appelée route de Metz pendant... après la perte de l'Alsace-Lorraine, donc pour se souvenir de Metz, c'est une route de Metz. Donc ce triangle-là a été occupé progressivement par les usines de Gaston Roussel, qui est devenu, enfin, qui a fondé plein de petites sociétés, dont la société UCLAF, donc c'était Roussel-UCLAF. Donc on verra des restes tout à l'heure des zones industrielles. Là, le commentaire que je voudrais faire, c'est simplement sur ce qui se passe dans les anciennes écuries. C'est un promoteur, une compagnie assez récente, mais très ambitieuse, qui s'appelle Fiminco, qui est spécialisée notamment dans les centres commerciaux et qui installe, qui transforme les anciennes écuries en village des marques. Village des marques, ça va être un super... Clémence a un cahier avec le...
Ah oui, c'est vrai.
Un prospectus. Le village des marques, ça va être top. Il y aura combien de dizaines de milliers de mètres carrés pour le food and style, donc c'est food devant et style derrière. Voilà, on y est ici. Et derrière ici, un grand parking, un immense parking pour les voitures. Et donc c'est un centre commercial. Et le concept du centre commercial, en réalité, c'est solder les marques françaises, il n'y aura que des marques françaises, solder les marques françaises à des touristes chinois. Donc on va vendre des produits fabriqués en Chine à des touristes chinois avec un logo français. L'empreinte carbone est top. Et ça va être trop génial ici. On va, voilà. Et on pourrait y venir en métro, en voiture. Ça va être formidable. Et ça va être bonifié par un centre d'art. Donc on ira tout à l'heure voir la fondation Fiminco. Il y aura un dépôt du FRAC Île-de-France, des résidences d'artistes. Voilà. Ça va être magnifique. Et il y aura une vitrine culturelle qui va légitimer un centre commercial cheap. Ça va être assez abominable. Oui, voilà, donc je passe la parole après à tous ceux qui veulent faire des commentaires. Francis dira un mot. Donc là, on est dans le nord de Romainville, d'une autre affaire qui se passe au sud de Romainville, donc plus haut sur la colline, tout à l'heure. Mais Julie, peut-être que tu veux...
Alors ici, je voulais juste vous dire qu'il y avait des jardins ouvriers à l'arrière de la parcelle, hein, qui ont été du coup artificialisés et qui vont être bétonnés. Alors qu'à Romainville, on nous promeut la première tour maraîchère hors sol. Donc ça fait aussi partie des contradictions de cet urbanisme galopant. On ne sait pas si on est dans du gadget ou dans le développement de services vraiment pour la population. Et là, tout ce qui se fait, c'est pas, enfin, ça se développe très vite, c'est essentiellement du logement et il manque pas mal de composantes qui font une ville. Voilà. Et sur Romainville, on est aussi ici à la croisée de plusieurs combats, dont Francis pourra parler également. Il y a François Mouton qui va nous rejoindre puisqu'il y a un gros centre de traitement des déchets. Donc il y avait un projet d'usine de TMB dans les années 2011-2012. Donc moi, ça a été un de mes premiers combats associatifs. Et peut-être que je vous en reparlerai sur la forêt, mais il y a aussi la façon dont sont traitées les associations et les citoyens dans tous ces combats. Finalement, il y a des constantes qu'on retrouve dans les méthodes de concertation ou de non-concertation des citoyens, qui, je pense, sont très accentuées parce qu'on est dans le 93. Donc, on ne considère pas qu'il faut vraiment prendre la vie des citoyens. En tout cas, on ne réunit pas toutes les conditions pour le faire.
Juste un mot ici sur la question de la pollution des sols, parce que c'est un des aspects du sujet. Donc, renseignement pris, la société, alors c'est Roussel-Uclaf, a changé 33 fois de nom ces dernières années. C'est devenu successivement, c'était racheté par eux, ça est devenu Sanofi, qui est devenu à son tour Fareva. Donc le sol a été dépollué de façon industrielle par le propriétaire, ce qu'on m'a assuré. Par contre, le promoteur ne dépollue pas. C'est des zones qui sont interdites dans le PLU, c'est interdit d'habitation, c'est non habitable, et donc il n'y a pas de dépollution au niveau résidentiel. Donc c'est pour ça qu'on n'a que des magasins, qu'on va avoir un lycée et qu'on aura une résidence d'artiste tout à l'heure. Parce que les artistes n'habitent pas, ils sont en résidence, donc ils flottent dans les airs.
Les lycéens aussi.
Et les lycéens, pareil, ils n'habitent pas dans les choses, ils sont juste des passages.
Maintenu.
Ah non, alors le paysan urbain, c'est tout à fait temporaire et c'est éphémère. Le paysan urbain, c'est typique, c'est de l'agriculture en bac. Non, c'est très bien. Mais c'est pas en plein sol, surtout pas parce que le sol n'est pas propre à l'agriculture. Hein, c'est totalement interdit. Non, ils sont dans des bacs, vous pouvez passer les voir. Non, ils vont partir dès que les travaux sont en cours. Peut-être la zone qui est juste derrière, qui est vacante. À côté du village des Marques, fait l'objet de la 15e modification du PLU de Romainville qui est en cours. Romainville a un PLU variable, flottant, très flottant, et la 14e n'a pas encore été entérinée, mais la 15e
a été refusée. On est à la 15e, là.
Oui, oui.
Donc, passer la 15e. Même.
Donc la 15e concerne la parcelle qui est juste là. On en reparlera, enfin, c'est un centre de Biocitech pour développer des technologies biologiques, donc c'est dans la continuité de... C'est du club, sauf que comme ça ne marche pas assez bien, une grande partie du terrain qui était affecté au projet Biocitech sera remis sur le... L'usage maintenant est ouvert, avec une possibilité que ce soit dévolu au village des Marques et que Fimaco remporte à nouveau le morceau et fasse une extension.
Qu'est-ce
qu'ils font, Biocitech ?
Je
passe à Francis pour dire un mot sur Vipelec, qui est quand même beaucoup plus grave du point de vue de la pollution.
Excusez-moi, mais je n'ai pas de réponse si bien que Sylvain. En plus, moi, je n'ai pas préparé. Donc, je vais vous parler de Wipelec, mais avant, je voudrais parler la pollution. Tu disais à l'instant que les paysages urbains, c'est éphémère, c'est clair. On va voir la tour maraîchère qui va bouffer comme ce n'est pas possible. Enfin, au bilan carbone, tu le disais, c'est assez exceptionnel. Tu disais qu'on a artificialisé des jardins partagés. Tu oublies de dire que ces jardins partagés qui étaient auparavant au sol, on va les transférer sur la terrasse des immeubles, donc ce qui est quand même assez génial, ouais, donc c'est quand même très, très intelligent. Par contre, en termes de pollution, je pense qu'il faut... vous savez que le... Ah oui, d'accord, c'est mieux comme ça. Vous savez qu'il y a eu un plan de prévention de l'atmosphère en Seine-Saint-Denis qui a été attaqué en particulier par les associations, et bon, France Nature Environnement, dont je fais partie, parce que c'est un plan qui est plutôt ridicule quant à l'amélioration de la qualité de l'air. On se fait retoquer par l'Union européenne, on est très mauvais en ce qui concerne les pollutions aux particules fines et aux NOx. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut retenir. Et en fait, l'urbanisation galopante que l'on trouve ici, elle ne va qu'amplifier ces phénomènes. Je ne sais pas combien de logements on va construire ici. Le long du canal de l'Ourcq, ça va être aussi assez, assez intense. La Nationale 3, bon, je vous invite à y passer, même si aujourd'hui elle est un peu plus propre, mais il y a encore peu de temps, c'était une décharge sauvage à ciel ouvert. Donc ce sont encore des éléments qui sont très mal gérés par nos politiques et par nos collectivités. Alors c'est vrai qu'ici on est sur Romainville. Bon, Romainville, comme le disait Sylvain, est un cas très spécial puisqu'on est à la 15e modification de PLU. Donc en fait, à chaque programme immobilier, on modifie le PLU pour s'adapter aux promoteurs. Donc ça, c'est une caractéristique. Et puis, donc, Romainville, ça, en particulier, c'est tout ce qui est là derrière nous qui a disparu. Ça aurait pu être protégé par un PLU patrimonial. Mais le PLU patrimonial, on l'a fait après avoir démoli. Bon, comme ça, au moins, on n'avait pas à protéger. Donc c'est un peu toujours... on fait toujours les choses à l'envers ici. Et bon, choses à l'envers, donc je vais en revenir plus précisément sur Wipelec. Bon, Wipelec, à l'origine, c'est pas forcément la mairie de Romainville qui en est responsable. Bon, Wipelec, c'était... Enfin, pour préciser, Wipelec, c'est une entreprise de traitement de surface. En fait, traitement de surface, c'est traiter les métaux qu'on va utiliser dans l'aéronautique. Donc il faut les durcir avec tout un tas de processus chimiques. Et Wipelec travaillait pour Safran, travaillait pour Airbus, travaillait pour les grands lobbies de l'aéronautique et l'aéronautique militaire en particulier. Et le patron de cette société, qui s'appelle Monsieur Pédamourg, alors je sais pas, il y a eu un reportage il y a à peu près un an qui... c'était envoyé spécial, mais dans lequel M. Pélamourg était interviewé. Et l'interview de Pélamourg était assez catastrophique. Parce qu'il a sévi à Romainville, mais il continue à sévir à Pamplonne, il continue à sévir à Mou. Et sur certains de ces sites, il y a des crèches ou des centres de loisirs à proximité. Mais Pélamourg n'en a rien à faire. Il pollue, mais il n'en a rien à faire. D'ailleurs, à Mou, il y a eu des arrêtés préfectoraux qui lui ont imposé de corriger le tir, mais bon, le type, vous l'interviewez, il dit, mais moi, j'étais là avant, donc il n'avait qu'à pas venir. OK, merci. Donc, sur Wipelec, ce monsieur a donc laissé un territoire désastreux, donc pollué, sol pollué sur le site, mais la particularité des pollutions de Wipelec, c'est que c'est du trichloréthylène et du benzène, et ce sont des polluants qui s'étalent tout autour. Donc, en fait, il n'a pas pollué que son site, mais il a pollué également l'ensemble de la zone de riverains. Quand les riverains... Bon, l'activité a été stoppée. Et évidemment, les promoteurs se sont précipités sur ce site. Et on dit, ah ben nous, oui, on achète. Et puis, on dépollue et on construit des immeubles. Donc, aujourd'hui, le projet immobilier, c'est à peu près 100 logements. Donc, tout un tas d'entreprises de pollution avec une société qui s'appelle Ginkgo, qui est spécialisée dans ce type de pratique. Bon, il y a Ginkgo et Brownfields qui sont les deux qui s'occupent qui traitent ce type de pollution, qui en fait qui achètent des terrains à très bas coût et puis qui les revendent en ayant fait trois fois la culbute. Bon, donc ce sont des boîtes qui sont censées dépolluer, mais elles dépolluent leur coin, elles ne dépolluent pas ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, donc le problème que l'on a à Wipelec, c'est que les riverains sont plus pollués aujourd'hui qu'avant la dépollution qui a été faite sur le site. Donc il y a 6 familles qui vont être délogées. Donc là-dessus, la mairie n'est jamais intervenue. Surtout pas, elle accorde des permis de construire. Le préfet, il était plutôt aux abonnés absents. L'ARS, donc, qui est l'autorité sanitaire en Seine-Saint-Denis, elle botte toujours en touche. Bon, Ginkgo, lui, il dit qu'il fait bien son boulot et donc c'est en fait au préfet de contrôler. Et puis bah, Pélamourg, lui, il est évidemment aux abonnés absents et il s'en remplit plein les poches. Donc ce site Wipelec, aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est de... Bon, alors, tu disais tout à l'heure que les assos travaillent. Oui, mais les assos, en fait, on n'arrive pas à se faire entendre dans les concertations. On n'arrive pas à se faire... quoi que dans les enquêtes publiques, on commence à arriver. Bon, on a vu à Gonesse, on a vu à Gagny qu'on arrive à gagner un certain nombre de choses. Mais en fait, notre nerlé de vieille, c'est d'aller au recours. Bon, sur Wipelec, on a un procès au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui. Ça traîne, ça fait 3 ans que ça dure, mais apparemment, bon, l'avocate était ce matin à Romainville, elle nous dit qu'à la rentrée, on devrait commencer à voir des choses. Il y a 2 juges qui ont été nommés, et donc on devrait commencer à pouvoir un peu mieux parler publiquement de tous les risques qui ont été qui résident sur ce site. Mais partout, c'est ça, partout. Donc, bon, Jeanne, tu pourrais nous parler de ce qui se passe sur le triangle de Gonesse. Bon, le triangle de Gonesse, il y a 3 ou 4 recours. Et malgré ça, l'État, on gagne les recours, l'État fait appel, etc. Bon, et puis, il y en a qui s'en foutent des recours. Bon, à Gonesse, l'avis défavorable du commissaire enquêteur sur le PLU, le maire s'est assis dessus. Bon, donc, à Gagny, le maire n'a pas pu s'asseoir dessus, mais on l'a fait annuler au tribunal administratif. Donc partout, il nous faut des moyens. Bon, alors, ce sont d'un côté des moyens financiers, de l'autre côté des moyens, enfin des expertises pour pouvoir. Bon, sur la conduite d'effort, on a aussi un recours contre le permis d'aménager qu'a accordé la. Mais tout ça, ce sont des boulots dont on voudrait se passer. Nous, ce qu'on attend, c'est de la concertation. C'est de pouvoir discuter, de pouvoir dire, bon, ça, c'est bon ou pas pour les citoyens, mais au moins que concertation, que l'engagement des citoyens dans le cadre des projets qui les concernent prenne enfin sa juste valeur. Malgré toutes les lois qui sont soi-disant promulguées, on nous retire tout le temps ce... Enfin, les lobbies sont plus forts que nous. Bon, c'est clair. Hein, bon, si tu parlais de Sanofi, là où on parle de Pélamorgue, peut-être que François parlera aussi du Sictum et d'Urbazer ici sur la. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pouvoir vous en parler toute l'après-midi. Bon, les gros combats qu'on a, c'est vrai que ce sont aujourd'hui des combats contre tous les programmes d'urbanisation, mais ça, on peut les combattre dans le cadre des PLU. Et donc là, il faut être vachement attentif à ce qui se passe dans les PLU, même si maintenant ce sont devenus des PLU intercommunaux ou des SCOT. Bon, alors la métropole du Grand Paris va nous balancer un schéma de cohérence territoriale. Là aussi, il faut bien l'analyser et essayer de le faire évoluer dans le bon sens. Et puis après, bah, si ça ne suffit pas, bah, ce sont les recours. Et là, il faut que les assos se donnent des moyens. Un dossier de PLU, un dossier comme le PLUI, ce sont des dossiers de 2000 ou 1500 pages. Bon, c'est du boulot. Ouais. Bon, et François qui est arrivé, il pourra nous parler du recours et de la procédure qu'il avait intentée contre le fameux projet de TMB. Alors TMB, c'est trimécano-biologique. Donc c'est un espèce de système où c'est le Sictum qui arrivait avec un magnifique projet. Il disait, écoutez, votre poubelle, vous occupez plus de ceux que vous mettez dedans.
Et les poubelles parisiennes.
Ouais, alors les poubelles parisiennes, les poubelles, elles sont, bon, les nôtres sont aussi assez ressemblantes. Vous occupez plus de ce que vous mettez dedans. Nous, on s'en occupe, on la met dans notre usine, on met de côté les déchets fermentescibles, de l'autre côté les cartons, les ferrailles, etc. Et puis à la fin, on fait du compost, c'est tout beau, tout retourne à la nature. Ouais. Sauf que l'analyse qu'avait faite François et son équipe à ce moment-là démontrait que sur une usine de ce type sur deux cramée, et que derrière, on ne crée jamais de compost. Au contraire, on mettait peut-être encore plus de plastique dans les champs. Bon, là-dessus, je te laisserai le micro, François.
Peut-être qu'on avance un petit peu, on en parlera un peu. Juste un mot pour le paysage. Les barres que vous voyez tout en haut en face, c'est Gagarine. Hein, c'est là où on va monter, sur la colline. Peut-être qu'on peut faire, voilà, marcher un petit peu, puis refaire des stops. Sauf si quelqu'un veut dire encore un truc ici sur le paddock. Les marques.
C'est juste une question. Oui. Comment s'appelle le promoteur ?
Fimaco.
Ils sont spécialisés dans le...
Pas que, mais notamment dans... Mais on va aller voir l'opération artistique Fimaco.
C'est eux aussi qui sont sur l'opération artistique ?
Oui, oui, c'est eux. La cité artistique est une annexe du village des marques.
Qui va payer ?
Qui va payer ?
Chacun sur passant le bébé. Bah, on sait bien que c'est nous qui allons payer.
Est-ce qu'on sort ?
Ouais.
85. Ah oui, quand même. On va. Ok.
Donc,
on va aller. On va un peu accélérer le pas parce qu'on est en retard sur le planning, mais quand même. On admire le siège de l'absence de pouvoir territorial. Donc on peut applaudir Est Ensemble, hein, qui est le siège de ce qui devrait être le cœur de la métropole, de l'agglomération. Donc Est Ensemble qui englobe les communes qui sont sur la colline et celles qui sont juste au pied de la colline, jusqu'à Bobigny-Bondy, Montreuil, Bagnolet, etc. Et c'est un lieu qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucune prise sur ce qui se passe dans le territoire. Donc c'est très spectaculaire que ce soit implanté ici, dans une zone qui est totalement réaménagée, sur laquelle Est Ensemble n'a aucune prise, et les citoyens encore moins, et qui est juste l'assemblage des pouvoirs locaux, des différents maires. Voilà. Donc c'est un peu salué. ce que tu veux. François, tu veux dire un...
Alors, bah moi, je vais vous parler de l'usine de, du Sictum, enfin, du, le centre du Sictum. Donc, je suis François Mouton et donc je suis président d'une association locale donc, qui s'appelle la Rivem, une association de riverains qui s'est constituée dans le cadre d'un projet qui était envisagé pour traiter les déchets d'une partie de la ville de Paris et de la Seine-Saint-Denis. Donc en fait, juste derrière nous, vous voyez la grue qui est là. Et en fait, juste derrière, vous avez un des quatre centres du Sictum. Alors le Sictum, en fait, c'est un groupement de communes d'Île-de-France qui se sont syndiqués, donc qui mettent chacun de l'argent au pot, quoi, pour pouvoir traiter les déchets. Donc à la base, c'est surtout de l'incinération. Ils ont des incinérateurs à Issy-les-Moulineaux, à la porte de Bercy, vous voyez ces grandes à Vitry-sur-Seine. Voilà, bon, c'est surtout des incinérateurs. Et depuis historiquement, la ville de Paris en fait était propriétaire de terrains qui étaient en dehors de, des murs de Paris pour pouvoir aller renvoyer les déchets en dehors de Paris. Voilà, donc Romainville historiquement est un centre qui reçoit les déchets. Donc bah, souvent c'est des endroits qui étaient plutôt industriels. Voilà, on nous dit bon ici chez vous c'est une friche. Vous voyez, bon, c'est comme ça qu'on. Plusieurs reprises qu'on a eu des. On s'est un petit peu bougé face à ce projet, on a rencontré des institutionnels. C'est un petit peu la considération qu'il y a des lieux. Parce que c'est vrai qu'ici, c'est. Il y avait des grosses industries ici, il y avait les fonderies parisiennes. Et puis il y a eu un incinérateur sur ce centre-là. Donc il y a, c'est sûr, hein, dans les sols ici, il y a beaucoup de pollution, hein, parce que c'est des activités qui étaient très polluantes. Et puis à l'époque, bon, les mâches fer des incinérations, on ne s'embêtait pas, on remettait tout sur place dans le coin. Donc il y a plusieurs terrains où voilà, il y a des mâches fer d'incinération ou des anciennes activités industrielles. Donc voilà, c'est un gros souci. Donc le projet qui devait être fait ici, donc ici c'est les déchets de Paris qui arrivent, mais qui repartent en fait, il n'y a pas de traitement. C'est ce qu'on appelle un centre de transfert des ordures. Donc les camions bennes que vous voyez en ville qui récoltent, bon, ils ne sont pas adaptés pour faire beaucoup de kilomètres. Donc il y a un point un peu central, un peu une zone qui regroupe géographiquement plusieurs points d'apport. Et donc les camions bennes qui passent en ville, ils déversent tout ici. Et après, c'est rechargé dans des grands SMIC qui, eux, font des grandes distances pour aller soit vers des incinérateurs d'Île-de-France, soit des charges en Seine-et-Marne. Voilà. Donc, qui également, c'est un sujet, mais bon, là, comme quoi la pollution s'exporte et c'est un petit peu sans fin. Donc ce projet avait vocation de construire la plus grosse usine de ce qu'on appelle du tri mécanobiologique, c'est-à-dire que ça traite la poubelle en mélange, celle où on ne trie pas et qui contient tous les produits polluants qu'on peut avoir dans notre poubelle. Et c'était la plus grosse d'Europe qui devait être construite chez nous. Donc une étape où on prétend pouvoir retrier ce que vous n'avez pas trié vous-même. Donc la machine magique qui retrie tout, quoi, l'aluminium, les aliments, le plastique, le verre, voilà, c'est un truc fantastique. Et la partie des restes alimentaires que vous ne mangez pas, que vous mettez dans votre poubelle, devait être méthanisée. Donc on l'a fait fermenter pendant à peu près un peu moins d'un mois. On fait du gaz, on produit de l'énergie sur place, c'est fantastique. Voilà, tout sur le papier était absolument merveilleux. Donc plus besoin de trier, c'est compliqué. Et puis en plus on fait de l'énergie sur place, waouh, tout le monde signe quoi. Voilà, donc sauf qu'on a vu des retours d'expérience d'usines similaires, c'est juste une catastrophe. Il faut savoir que c'est des usines qui coûtent une fortune. Là, le budget était de 450 millions d'euros, voilà, pour ce projet-là. Bon, une fois que le projet, on sait que ces projets, une fois que la construction se fait, il y a des travaux supplémentaires. Bon, bref, après, ça n'en finit pas d'ailleurs. Et donc, juste la construction, je ne vous parle pas des coûts d'exploitation. Et tout cet argent, évidemment, n'aurait pas été mis dans un travail à faire en amont pour mieux gérer nos déchets, tout simplement pour éviter de mélanger nos déchets et puis essayer de créer des filières qui récupèrent les déchets une fois que nous, on les a triés. C'est quand même un peu plus intelligent, quoi. Voilà, donc en fait, ça ne trie rien. Voilà, ça renvoie au final des déchets. C'est une étape qui est construite, qui ne résout absolument pas le problème. Et les déchets, au final, se retrouvent quand même soit à être incinérés, soit à partir en décharge. Donc en fait, on crée une dépense gigantesque intermédiaire totalement inutile, avec évidemment des nuisances sur place. Ça, c'est pour l'aspect NIMBY, on va dire. Mais bon, quand même, quoi, les gens qui habitent là, ils ont des nuisances absolument insupportables en termes de nuisances olfactives. Parce que quand vous faites pourrir des déchets à hauteur de 400 000 tonnes par an, Bah, je vous laisse imaginer, ça fait quand même une sacrée quantité. Bon, alors la partie alimentaire, c'est moins, hein, c'est 30%, mais voilà, ça fait quand même des milliers de tonnes qui sont mis à pourrir sur place. Une usine hermétique, ça n'existe pas, à moins de la mettre sous l'eau, bon, c'est absolument impossible. Donc il y a des grosses nuisances olfactives. Bon, comme on est dans une friche, c'est pas très grave. Vous savez, ce genre d'usine, il est construit en général à un endroit où il y avait déjà des nuisances très importantes. Donc on vous dira, c'est moins pire qu'avant. Voilà le type d'argument qu'on nous a sorti. Alors, c'est vrai qu'il y a Sanofi ici, il fabriquait des médicaments. Alors parfois, ça sentait mauvais. Bon, c'est souvent comme ça, c'est des endroits où il y avait déjà des nuisances, on vient vous en recréer une nouvelle, et puis c'est une opportunité pour pouvoir justement implanter ce type d'activité qui n'apporte déjà aucune solution à ce pourquoi elles étaient faites à la base. Et puis bah, on sacrifie une zone dont on considère qu'elle est déjà sacrifiée. Voilà. Voilà pour ce projet, et puis bon, pour un petit peu le contexte industriel local.
On attend parce qu'on a beaucoup à faire encore. Merci.
Okay.
Ah
ben
voilà.
On
va
pas trop, on va pas aller très loin.
On va pas les faire, on s'arrêtera à la barrière.
Il y a une sorte de barrière.
Ouais, mais bon.
L'usine, elle est vide en derrière.
Et ouais, c'est marrant.
Du coup, le Flamingo, c'est plus par là-bas ou c'est plus par là? C'est ce bâtiment qui est super beau. Hein.
Mais oui, c'est des beaux bâtiments.
Wow.
Et c'est nous, ça va être.
Ouais, c'est super beau avec en plus des grosses.
Ah ouais, c'est de l'architecture. J'ai le nom de l'architecte si tu veux.
C'est beau.
Ah non, c'est super beau. C'est de l'architecture.
Ça, tu vas raconter, j'imagine. Ouais.
Ça, c'est les usines.
Ça peut faire être une
usine.
Il y a plein de bâtiments.
On a franchi la barrière.
Ok, donc ici, comme là on est très en retard sur le timing, il y a tellement de belles choses à voir à Romandie. C'est le bâtiment industriel de Roussel-Uclave, de la grande époque. Et l'architecte s'appelait Jean Barreau, qui a construit donc, ces ensembles de bâtiments industriels en briques qui sont vraiment très chouettes. Et donc qui vont être transformés en centres d'art, réserve du frac, résidence d'artistes, etc. Sans aucune dépollution. Enfin, alors Fareva. Un tout petit commentaire quand même sur l'obsolescence. Enfin, on parle beaucoup de l'innovation, c'est le mot-clé du capitalisme contemporain. Innover, innover. En fait, on ne dit pas l'innovation a pour conséquence l'obsolescence, pas seulement programmée des objets, mais l'obsolescence de tout, y compris des noms. Donc c'est très spectaculaire de voir que Fareva, je ne connaissais pas en fait Fareva, c'est Sanofi qui était Roussel-Uclave. Ça s'obsolesce, si on peut créer un verbe, très très vite. Et donc l'industriel va s'en aller. Le bâtiment de gauche est encore utilisé maintenant, mais il part à la fin de l'année. Et donc Fimaco va tout récupérer pour faire encore des résidences de luxe pour jeunes artistes qui seront en résidence à côté de là. Donc c'est, si quelqu'un veut dire quelque chose sur les liens entre l'art contemporain, l'immobilier commercial et le grand capital. Non, mais quand on parlait de loin de Rueil tout à l'heure, c'était pour dire, c'est intéressant de comparer toujours l'Est et l'Ouest de Paris, et donc il y a des trucs très chics pour du grand luxe avec Pinot à Boulogne, et il y a des trucs pas chics, cheap, à l'Est, à Romainville, loin de Rueil. Mais c'est très spectaculaire, quoi, comme on dit.
Juste avant, tu parlais de la différence entre l'Est et l'Ouest de Paris. Bon, je vous invite à regarder un dernier reportage, enfin une dernière étude de l'IAU, qui est l'Institut d'aménagement urbain de l'Île-de-France, qui fait un parallèle entre ce qui se passe dans les communes de l'Ouest, donc les Hauts-de-Seine, grosso modo, et ce qui se passe dans les communes de l'Est, bon, la Seine-Saint-Denis. Et on savait qu'il y avait des différences concernant la pauvreté en particulier, des écarts entre l'Est et l'Ouest qui étaient importants, qui étaient mesurés. Cette dernière étude montre que les écarts se sont accentués. Donc malgré tout ce qu'on veut nous dire, malgré le fait de dire on va vous construire des logements, on va construire des écoles, etc., c'est le résultat est tout à fait l'inverse. Donc il y a quand même de gros soucis, et pour que la Seine-Saint-Denis se défende, on essaye de le faire.
Ok, donc là, comme on est très en retard sur le timing, on a plein de choses à vous dire sur la forêt. On va prendre à droite et on va monter tout droit à la chapelle Sainte-Solange. Priez Sainte-Solange.
On pourra brûler un siège.
Et ben, elle est fermée.
Elle est fermée. Je pense à quelqu'un qui disait que c'était beaucoup moins de heures pour les gens.
Fermé. Ah oui. Ouais, on peut s'arrêter ici un instant pour. Service de désinfection. Non, c'était juste pour avoir une pensée pour Sainte. Une pensée pour Sainte Solange, voilà, qui est fermée. Donc, prions pour Sainte Solange pour qu'elle rouvre.
On le fait tout de suite ou on attend
le...
la prière?
Ben on l'a fait maintenant, oui, le temps que tout le monde arrive, on peut... 15 secondes de silence pour Sainte-Solange, pour qu'elle protège la forêt, parce que si Sainte-Solange avait été en activité, elle aurait protégé la forêt qui est juste là. Voilà. Donc, est-ce que, Julie, tu veux commencer sur la forêt?
Alors, je vais inviter à mes côtés Charlotte Trouve, qui est la journaliste de Télérama, qui a fait une grosse enquête l'année dernière, la première enquête de fond sur cette forêt. Voilà, parce que c'est un sujet, alors comme tous ces combats, hein, Arrivem, qui sont en combat depuis 2011, donc c'est des combats qui mobilisent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, voilà, et qui nécessitent de développer aussi des expertises du côté des associations et d'avoir des personnes qui peuvent suivre les dossiers sur le long terme. Donc le combat de la forêt, il a démarré en 2011. En fait, il y avait une première pétition, il y a eu un article dans Le Parisien que vous pouvez retrouver, de l'ANCA et un ornithologue amateur, David Bismuth, qui interrogeait sur le devenir de la forêt. Et à l'époque, les élus disaient qu'il n'y aurait pas d'arbres sacrifiés. Après, c'est un vieux projet, hein, ça date des années 95, c'est reparti dans les années 2000. Il y a eu un appel d'offres pour un paysagiste en 2004. Et voilà, c'est un projet, au départ, voilà, toute cette forêt qu'on voit là, elle devait être complètement ratiboisée. Le projet était appelé Mont Chauve par les habitants. Voilà, on voyait une espèce de grand terrain de foot circulaire, en fait. Voilà. Et ça, c'était le projet initial. Au fil du temps, de la vigilance des associations, aussi, à mon avis, de la baisse des finances publiques, le projet a été revu à la baisse. Mais sans que le cahier des charges, qui date de 2004, n'ait jamais été revu. Donc voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes considérations à l'heure actuelle sur le changement climatique, sur les arbres, sur la biodiversité qu'on était à ce moment-là. Donc voilà, en 2011-2012, il y a un collectif qui s'est mis en place, le collectif des Amis de la Forêt, qui regroupait des gens d'Europe Écologie, des associatifs, qui ont commencé à faire des balades pour montrer cette forêt. Vous avez Fabrice Nicolino qui avait fait un très beau texte pour proposer un observatoire de la biodiversité populaire. Voilà, donc ça, vous le trouvez en ligne assez facilement. Donc l'idée, c'était d'ouvrir, mais très légèrement, d'intervenir légèrement sur le site pour permettre à cette Saint-Denis, qui est quand même très privée d'espaces verts et de nature, aux habitants de découvrir ce site. Donc en 2015, on a une réunion qui s'est terminée au bout de 10 minutes par une alarme incendie, parce qu'il y avait trop d'associations dans la salle. On pense que c'est ça, qui a été reporté, mais bien évidemment avec très peu de monde. Et c'était une réunion d'information. Et après, tout ça a été très opaque. Donc nous, on est venus, on a visité avec Gilles Clément, histoire d'avoir, qui est un grand paysagiste, jardinier, auteur, qui est quelqu'un de très engagé pour avoir son point de vue, qui a confirmé l'importance de ce site. Bon, lui, il est vraiment sur les questions de tiers paysage, de nature sauvage, vraiment des questions un peu avant-gardistes à l'époque sur ces questions. Et voilà, moi, il m'avait un peu demandé de contacter d'autres personnes, mais à ce moment-là, c'est... ça ne l'intéressait pas vraiment. Et puis à Romainville, vous avez toujours un combat de dernière des fagots. Donc on a essayé de sauver notre place publique. Donc il y a eu l'usine de TMB qui nous a pris pas mal de temps. Et après la sauvegarde de notre place publique, et comme on n'avait plus d'infos, tout ça n'a pas trop avancé. Donc moi, en 2017, j'ai travaillé avec les étudiants de l'école spéciale d'architecture qui ont proposé plein de projets pour cette forêt sans défricher des arbres. C'était des projets de micro-architecture, d'observatoire, des projets aussi de liaison urbaine parce que Là, on va monter. Et Romainville, il y a vraiment une scission entre toute la partie haute et la partie basse. Et c'est un problème vraiment urbain de relier les deux parties. Voilà. Et là, j'ai laissé la parole à Charlotte qui a fait la première enquête et qui va vous dire aussi ce que... Là, il y a encore un problème de dénomination comme sur le SICTOM. Là, c'était une friche et là, c'était pas considéré comme une forêt.
Oui, très brièvement, en fait, la question principale au départ dans cette... parce que l'espace que vous avez derrière, en fait, n'était pas appelé forêt. En fait, tout le monde parlait, il y avait toute une série de vocables de délaissés, friches, espaces, domaines. Et moi, lorsque j'ai commencé à faire donc, les premières interviews, notamment au niveau du politique, absolument personne n'employait le terme de forêt. Et lorsque j'ai fait cet article, en fait, ce qui était assez drôle, c'est que justement, le hors-série que j'avais la chance de coordonner donc pour Télérama, c'était un hors-série sur les forêts. Et je me suis posé la question, en fait, à partir de quand est-ce qu'on pouvait parler de forêt ? Parce que c'est vrai que là, on voit des arbres, donc ça paraît très bête de dire que c'est une forêt, mais ça l'est pas du tout. Et tous les politiques que j'avais interrogés, ben, justement, c'était un terme qu'ils veillaient soigneusement à ne pas employer. Parce que du moment où on se met à parler de forêt, on peut parler d'écologie, on peut parler d'environnement, et là, on peut parler de quelque chose de grave. Et donc, le seul moment où ils employaient ce mot-là, et c'était très particulier, c'était en fait justement pour justifier leur projet d'île de loisirs. Qui d'ailleurs a changé de nom aussi, parce qu'au départ c'était une base de loisirs, ensuite elle était appelée île de loisirs, enfin voilà. Et c'était leur première île de loisirs accolée à une forêt en Île-de-France. Et voilà, et donc du coup, en fait, l'article, il y avait un certain nombre de paradoxes à justifier, c'est-à-dire déjà donc, que c'était bien une forêt, qu'ensuite cette île de loisirs n'allait pas être ensuite dans une forêt mais dans un parc, parce que finalement ce qu'ils voulaient faire c'était pas une forêt mais un parc. Et que en fait, elle se trouvait dans un lieu où il y avait déjà tout un tas de parcs autour qui étaient à peine fréquentés. Donc, on se retrouvait avec trois paradoxes qui étaient une situation hautement conflictuelle. Voilà. Et donc, ensuite, l'article est paru et ensuite, ben, c'est Julie qui va enchaîner avec une pétition donc qui est parue dans Libé, je crois, à l'époque, avec un certain nombre de signatures. Et ensuite, les choses se sont enchaînées, mais ça n'a pas empêché l'abattage des arbres, malheureusement. Voilà.
On repart de la pétition sur Chine.
Oui, en fait, non. Julie a fait une tribune dans Libération, qui était parue en début juillet. Voilà, je suis allé la voir en août pour lui dire non, il faut faire une pétition. Elle dit non, ça n'a jamais marché. Puis ça a explosé. Là, on est à 31 000 signataires. Si vous n'avez pas fait pour encore signer, ça compte toujours. Hein. 31 000, oui, oui. Ça se ralentit un peu le rythme. Mais voilà. Et donc, on a eu une grosse mobilisation à partir de septembre dernier. Les travaux ont commencé début octobre. Il y a eu de l'enfumage en permanence. Et on a réussi à faire venir beaucoup de monde. On a bloqué le chantier en octobre au bout de 10 jours. Donc c'était, vous allez voir, quand on va remonter par le chemin, c'est la voie qui est tracée à l'intérieur, qui soit disant une promenade. En fait, il y en a une qui existe déjà. Ils en font une autre à l'intérieur. C'est simplement, c'était une voie de chantier pour monter vers les étages supérieurs où, là, les carrières... voie tremblayée, enfin, sont quasiment remblayées, pour pouvoir stabiliser le sol et faire une belle prairie pour faire un parc. Vous allez voir à quel point c'est ridicule tout ça. Peut-être un mot quand même sur l'histoire du lieu, parce qu'on parle de pollution. C'était des carrières de gypse, donc on est la colline, c'est une sorte de lasagne avec des couches de gypse et de marne. Donc ça a été exploité depuis très longtemps. Toute la colline est exploitée depuis très longtemps, Romainville depuis le 19e siècle. Donc la zone qui est là, c'est assez intéressant, c'était un ancien parc d'un château du 17e siècle, qui du coup a été vendu, racheté au 19e et exploité pour en faire une carrière. Et l'exploitation a vraiment creusé toute la colline, l'ancien parc du château. L'exploitation s'est arrêtée dans les années 60, mais au fur et à mesure qu'on avançait, les carrières ont servi de décharge. Donc c'est bourré de tout et n'importe quoi à l'intérieur. Le dossier d'étude d'impact raconte bien que ça n'a pas été contrôlé. On a retrouvé des éléments. Donc juste, je cite notre ami Olivier Belbeau qui est hospitalisé en ce moment, donc il n'est pas là aujourd'hui, mais qui a fait un gros travail d'étude sur la pollution des sols, et qui a vraiment, c'est très compliqué. L'étude d'impact présente, il y a deux études sur de la pollution des sols qui ont été menées en 2009-2010, et dans le dossier qui nous a été remis, on a les cartes d'une étude et les chiffres d'une autre étude, et ça ne concorde pas, il n'y a pas les mêmes côtes, on ne peut pas savoir quelle pollution est située à quel endroit. Tout est fait pour brouiller les pistes, on ne sait pas, mais on relève des taux très élevés de métaux lourds à certains endroits, et on retrouve de façon assez étonnante du strontium un peu partout. Le strontium, c'est forcément un produit issu de la fission nucléaire, donc et on pense que ça peut être lié à des travaux menés par Roussel Duclaf en dessous, puisqu'il y a pour la traçabilité des médicaments, il y a un marquage nucléaire qui est effectué. Donc voilà, il y a toutes sortes de pollutions à l'intérieur des sols. On va avancer un petit peu et Jean-Charles nous parlera de la façon dont on peut voir la pollution aux plantes qui poussent. Et on remontera et on observera, alors on n'aura pas le temps de rentrer dans les jardins, vous verrez des jardins familiaux qui sont sur une terre relativement polluée. Alors là, il ne faut pas non plus s'alarmer, mais Olivier a fait un sondage qui montre des traces vraiment importantes de métaux lourds. Ça ne veut pas dire que tous les jardins sont pollués, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais il faut calculer qu'est-ce qu'on peut faire pousser comme plante en fonction, enfin, quelle plante absorbe quels métaux, pour savoir. Ce n'est pas parce que les terres sont polluées qu'on ne peut rien en faire. Mais la chose est très délicate à mener. Et évidemment, là, il n'y a eu aucune information. On a juste rajouté une couche de terre en disant faites tout et n'importe quoi et on ne vous dit pas ce qu'il y a dans votre sol. Et là, on a besoin aussi d'avoir des études sur cette pollution. Oui, voilà ça. C'est que. La préconisation, mais on a rajouté 30 cm de terre, mais ce n'est pas suffisant si tu mets des poireaux.
La pollution, de toute façon, est toujours dans le sol.
Mais bien sûr, voilà. Donc voilà. Et après, pour combler les parties hautes des fontis, des carrières tout en haut, on a pris des terres qui sont ici, mais en disant c'est des terres saines, mais il n'y a eu aucune mesure, hein, c'est de l'enfumage total. Donc on va avancer un petit peu, parce qu'on a encore beaucoup à faire, on va remonter le chemin, et Jean-Charles nous dira quelques mots sur. Les plantes indicateurs de pollution. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc cette jolie palissade métallique a été posée au mois d'octobre parce qu'il n'y avait que des grillages, on rentrait trop facilement, donc c'est comme ça qu'on a interrompu le chantier en octobre. Et du coup, le préfet de police a refusé de faire venir la police pour nous chasser et protéger le site. Donc, un jugement du TA de Montreuil a demandé à la région de sécuriser par ses propres moyens. Et donc, en décembre, a été installée cette palissade métallique qui a permis de reprendre les travaux et donc tout a été effectué. Et comme entre-temps, le mouvement s'était divisé de façon absurde à cause de certaines personnes toxiques, on n'a pas pu empêcher cette chose-là. Voilà. Mais donc, Jean-Charles ?
Ouais. Oui. Donc voilà, là, en fait, on va voir par rapport aux plantes ce qu'elles peuvent dire de la nature, et de la pollution du sol. Donc là, il y a deux plantes qui sont intéressantes ici. Enfin, en vrai, il y en a beaucoup plus, hein, mais celles qui sont vraiment révélatrices de la pollution du sol. Pour qu'une plante elle soit bioindicatrice, il faut qu'elle représente, qu'elle soit significative en fait, il faut que ça représente au moins 20% de la population des plantes sur le terrain. Donc en vrai, en poussant l'étude beaucoup plus loin, on peut en savoir plus. Mais là, on va faire simple avec juste deux plantes. Donc cette plante-ci, vous la voyez ? Donc c'est un sureau. C'est pas du tout le sureau dont on mange les fruits, qui est un des composants du sureau de grenadine, etc. C'est le sureau yèble, celui-ci est toxique. Donc c'est pas le sureau noir qui est en arbre, qui fait des fleurs au parfum bien connu et qui se mange. Donc je sais pas si vous voyez là, à côté des pavots. Donc les pavots étaient plantés parce que là, vous voyez tout ici. Avant, c'était gavé de sureau yèble. Et donc, le fait que cette plante, elle supplante les autres plantes en croissant ici, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une plante. Celle-ci, vous la reconnaissez peut-être, elle pousse au bord des chemins de fer, au bord des autoroutes. On la voit souvent là. Et donc, en fait, elle révèle du sol. Elle pousse plus facilement que les autres plantes, on va dire, sur des sols qui sont pollués aux métaux lourds, pollués aux produits chimiques, et de manière à ce que ça tue en fait la vie bactérienne, ça déséquilibre complètement la vie bactérienne du sol. Et donc il peut y avoir plusieurs sortes de pollutions différentes qui sont à l'origine du fait que cette plante-là supplante les autres plantes dans les populations locales, mais en tout cas ici il y a de fortes chances pour que ce soit une pollution aux métaux lourds. Donc puisque on peut recouper avec les analyses qui sont ici. Et aussi vous voyez, regardez là, donc là tout où il y avait les pavots, en fait il y avait des suroyables, là c'était partout. Et quand vous regardez ici, alors si on recule un peu, alors j'invite tout le monde à reculer pour prendre pour avoir une meilleure vue. Et là vous voyez, donc là on a du suroyable en bonne quantité, hein, ça représente plus de 50% des individus de ce terrain-là. Et à gauche, vous avez de l'ortie qui est en fleur. Vous voyez ? Donc les fleurs de l'ortie ne sont pas très impressionnantes, hein, mais elle est en fleur. Et donc l'ortie, elle va pousser, la grande ortie, hein, elle va pousser sur des terrains qui sont riches en fer. Par exemple à la campagne, quand on balance de la ferraille et tout, quelque part, il y a de fortes chances pour qu'il y ait de la grande ortie ensuite qui germe à cet endroit, parce qu'elle contient beaucoup de fer et tout, donc elle aime bien pousser là où il y a du fer. Et donc l'association des deux plantes, pourrait indiquer qu'il y a une pollution aux métaux lourds, forcément pour le surrogable, et qu'il y a aussi du fer. Donc il faut savoir que la nature du sol ici, le sol à gypse, en fait le gypse c'est une roche sédimentaire, c'est-à-dire qu'elle est issue, vous savez, des petits squelettes d'animaux et tout qui sont morts il y a des millions d'années, et donc en fait il n'y a pas de fer, naturellement, dans ce genre de roche. Donc c'est forcément une pollution industrielle. Vous voyez ? Voilà.
Merci. On peut monter sur le chemin. Si tu veux faire d'autres commentaires.
Peut-être que...
On parlera de la renouée plus haut.
Ah ouais, on va. Non, ouais, on
fera... Il y a un point renouée qui est prévu. Voilà.
Est-ce qu'il était. Est-ce qu'il était...
Ah, non, mais je peux rallumer.
Ouais, on peut... voilà. Donc là, en fait, le chantier a.
Non, tu rallumes ton micro, je pense que tu as dû
être. Ouais, donc le chantier a notamment détruit toute la lisière qui était ce qu'il y avait de plus riche du point de vue de la biodiversité, notamment pour les oiseaux, et on avait des lianes extraordinaires. C'est une des beautés de cette forêt, c'était les lianes, les clématites. Voilà. Donc c'était superbe de marcher, là on va avoir...
Il y a 5 types de lianes.
Oui, ouais, c'est génial.
J'ai fait... Alors quand j'ai fait, il y a un peu moins d'un an, en soutien à la lutte sur la grande Géforte, j'avais fait une balade donc, de plantes sauvages, et j'ai fait aussi un album photo. Donc, où j'explique un peu tout ça, les plantes bioindicatrices. Et en fait, mon petit trip, moi, c'est les plantes sauvages. Et donc, j'ai fait le détail des 5 lianes qui poussent ici sur la corniche des forts, qui sont 5 des 7 lianes, en fait, que vous pouvez trouver dans l'écosystème francilien, dans les écosystèmes franciliens. Et donc, c'est super riche en biodiversité de lianes. Parce que les autres forêts d'Île-de-France, comme elles sont beaucoup... Il y a beaucoup de balades, il y a beaucoup de gens qui se promènent. Les lianes, elles n'ont pas trop l'occasion de pousser. Et quand elles ont l'occasion de pousser, en fait, quand il n'y a pas trop de promeneurs, mais il y a beaucoup d'animaux, et donc ils bouffent les lianes. Parce qu'ils n'ont rien à becquer, des fois. Donc, voilà. Donc ici, il y a plein de lianes, parce que, en fait, l'endroit était plutôt préservé pendant des années.
Moi, j'ai une question sur le pavot. Le pavot, là, il a été semé, c'est pas un pavot indigène.
Non, le pavot, il a été semé, ouais.
C'est quoi son histoire ce pavot qui ressemble à somniférum, un peu. Donc typiquement...
Alors le pavot, c'est un pavot de décoration, c'est celui avec lequel vous faites de l'opium, hein, si vous voulez essayer. Donc voilà.
Métaux lourds.
Ouais, ouais, c'est ça. Bon, pour fumer, voilà, il y a des métaux lourds dans le tabac que les mâles vous rendent, qui vous vendent à 4 chemins, hein, vous inquiétez pas, c'est hyper pollué.
Mais du coup, il résiste ou il a l'air. Ça marche bien, lui, ou il y en a beaucoup?
Alors, juste un truc que je voudrais dire, vous voyez ça, cet arbre-là? Donc ça, c'est un sureau noir. Donc c'est à pas comprendre avec le sureau yèble. Vous voyez, le sureau yèble qu'on a vu, le sureau yèble est une plante annuelle, donc elle fera des fleurs et des fruits sans faire de bois, alors que le sureau noir, dont on peut manger les fleurs et les fruits, enfin les fruits, il faut les cuire, hein, parce que sinon, ça fait chaud. Et du coup, en fait, celui-là, il ne fera des fleurs et des fruits qu'après avoir fait du bois, puisque celui-là, c'est un arbuste. Voilà. J'avais prévu de pas t'en parler. Hein.
Non, c'est bien, merci de nous éclairer.
Il est où, mon vélo?
Là-bas.
Ah ouais. Les lentes, ouais. Alors les élantes, vous voyez ça? C'est des arbres champions de la colonisation de Frise-Jourvenne en Ile-de-France. Donc il y a beaucoup de gens qui les déclarent, qui les aiment pas parce qu'ils disent que c'est envahissant. Mais en vrai, les plantes, elles poussent où est-ce qu'elles peuvent, hein, elles sont comme nous. Ah vous voyez derrière, c'est rempli de surroyables. Voilà, ça c'est une sacrée bio-indication. Hein. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vie bactérienne dans le sol et que donc en fait les bactéries sont tuées par les polluants qui sont présents. Donc probablement des métaux lourds et sans doute aussi du trichloréthylène, c'est ça? Ouais, dans le triclos, c'est pas terrible pour les bactéries, elles n'aiment pas trop.
C'est terrible pour personne.
Ouais, ouais, des fois il y a des vapeurs d'ailleurs, c'est ça qu'on sent dans le quartier, hein, des fois. Voilà, donc les lentes. Les lentes, ils poussent très très bien sur les sols pollués, donc ça ne pose pas de problème, voilà. Et en fait, vous voyez, ils croient très très vite. Donc là, ces individus-là, ils doivent avoir 4 ou 5 ans maximum, hein. Peut-être même 3 ou 4. Enfin voilà. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui les déclarent invasives, donc ils cherchent à leur couper la tête tout le temps. Mais souvent elles poussent à des endroits où d'autres plantes ne poussent pas. Donc ici en Ile-de-France, qui vont coloniser les Frise-Jourvenne, vous avez les lentes, vous avez l'érable sycomore qui est à côté, parfois l'érable plane, et voilà. Et le robinier et tout. Et donc ici, dans la forêt, vous avez un peu toutes les plantes comme ça qui sont apportées par les oiseaux et le vent. Les oiseaux, dès qu'ils ont un espèce de havre de paix, en fait, c'est là qu'ils viennent nicher, même si c'est un peu pollué. Vaut mieux ça que, voilà, ailleurs, quoi, comme vous imaginez. Et du coup, on a un peu une belle collection, ici, à la Corniche des Forts, des plantes colonisatrices des Frise-Jourvennes. C'est vraiment super intéressant en termes scientifiques et écologiques, au sens de l'écologie de la science, hein, d'observer ça.
Il y a des coquelicots rouges et des coquelicots violets. Est-ce que la couleur n'est pas non plus un indicateur de, des métaux qui sont dans le sol?
Non.
Ça dépend...
Ah, ce sont des espèces différentes. Ouais. Ouais.
Je ne parlais pas vers assez, cette famille, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a certaines familles de végétaux qui sont... la couleur des plantes, elle change avec le pH du sol. Ouais.
Il y a des coquelicots à couleur beaucoup plus pâle et beaucoup plus foncé. Mais c'est vraiment une histoire d'espèce.
Un petit larcin, je
pense. Parce qu'on va comparer aux hortensias où on dit que pour qu'on hortensia.
Ah ouais, chez les boragivacées, par exemple, la vitérine, des trucs comme ça, effectivement, les fleurs bleues peuvent devenir rosâtres. Et c'est un indicateur. Il y a de la chimie là-dessous, il y a un changement chimique qui fait que le bleu vire en rose.
Mais ça met.
Si ça vire en rose, parce qu'il y a quelque chose dans le sol qui. En général, c'est une fois que la plante est pollinisée, elle change de couleur. Ça va pas avoir.
Là, en plus, bon, c'est assez mélangé. On voit du violet au milieu du rouge. Et donc,
ça, c'est des pots de cultivés. C'est pas des pots de sauvages. C'est quelqu'un qui a, je ne sais pas quand, il y a longtemps, balancé des graines.
Il me semble qu'Olivier, ben, je vais en parler. C'était pas génial.
On est le 16 juin.
Il y a du monde, mais pas comme ça.
Ouais. On a des besoins de café, de détruire une petite part de forêt pour faire un truc.
On s'arrête ici?
Peut-être pas ici, on va peut-être aller plus haut. Parce que là, la Renée, on en voit une forêt de Renée.
Ah oui.
Donc, on va aller plus haut pour mieux la voir.
Ouais, carrément.
Donc on va traverser.
On l'identifie clairement.
Ouais, on va. Mais juste, il faut que le groupe revienne.
Après, ici, on parle pas de l'aménagement, un peu de la
voilà,
forêt.
Mais
non, tu préfères qu'on le fasse au-dessus?
On va monter un peu plus haut, peut-être.
Ouais.
Ou tu veux... Parce que, mais ici, on voit pas très bien le.
C'est vrai.
Je sais pas, sauf si Julie veut. Julie, tu veux dire maintenant un mot?
Donc c'est une forêt qui a poussé après l'abandon du parc. Sur l'aménagement, je pense.
Voilà. On peut dire juste
sur le projet d'aménagement.
L'histoire de la forêt, pour l'aménagement, et puis après.
Les perspectives.
Et peut-être on ira mieux d'un peu plus haut.
D'accord.
Juste là, c'est pour dire pour parler du comblement, juste là, après on.
Alors, ici, donc, comme le disait Sylvain, c'était la partie où il y avait vraiment la lisière de cette forêt. Donc là, cette pelouse, elle est existante, mais elle appartient au département. Donc ça fait partie. Des choses un peu incongrues de ce dossier, c'est que dans le projet d'aménagement, cette pelouse, elle n'est pas comprise dedans. Pour l'instant, il n'y a pas de rénovation et ça n'a pas été conçu comme un élément potentiel de ce projet. Donc là, on voit les centrales de ciment, donc je ne sais plus combien de tonnes, c'est énorme ce qu'ils injectent en lait de ciment, donc ça va être un espèce de mélange. Là, on va avoir une zone d'éco-pâturage qui ne sera pas ouverte au public avec des moutons. Voilà, ça c'est la spécialité de Sylvain, la renouée du Japon. On va avoir à l'arrière une passerelle qui va permettre d'aller voir la nouvelle lisière de la forêt.
Mais une passerelle, mais on sera dans des cages.
Oui, on sera dans l'étage.
Dans des cages.
Ça, je ne me souviens plus. Oui, ouais. Donc là-bas, il y a aussi un plan où vous pouvez voir toutes les choses. Il y a aussi une zone d'agrès, donc on a des agrès en fer. Hein, donc vraiment un très bas de gamme. Enfin, pour moi, c'est très air d'autoroute. Et en bas, là où on est passé, il y aura une zone destinée à avoir un poney club. Donc ça c'est la grosse attraction, mais pour l'instant c'est le Poney Club, il n'est pas financé, c'est le raccordement au réseau pour avoir potentiellement un Poney Club. Et donc quand on leur dit que ça aurait été bien de consulter les personnes des cités pour savoir si elles voulaient un Poney Club payant, parce qu'il y a ce côté-là, donc la région répond que ce sera accessible grâce au chèque loisirs. Donc nous parmi les demandes, parce qu'il faut savoir que notre combat il continue, même si voilà, on a perdu sur ces 7 hectares, ce qu'on demande c'est des aménagements plus naturels, de replanter au maximum. Il va y avoir de la compensation in situ. Donc la compensation, c'est quand même un concept assez... En fait, je crois que c'est la loi de 2016 sur la biodiversité, c'est éviter, réduire, compenser. Donc en fait, si vous faites un projet comme ça, vous devez limiter son emprise, et sinon compenser. Donc nous, ça va être compensé plutôt dans le 78, d'après ce qu'on sait.
77 ? Non, Seine-et-Marne.
Seine-et-Marne. Excusez-moi. Oui. Donc voilà, alors parmi ce qui semblait être une bonne nouvelle, c'est que quand même avec toute la pression qu'il y a eu, la région a présenté un dispositif de protection, l'obligation réelle environnementale, qui protégerait 20 hectares, plus encore 5 hectares côté Noisy. Donc ça c'est quand même avec une vocation scientifique, avec une gestion vraiment très minimaliste, mais pour permettre juste de l'inventaire. Donc ça, ça a l'air très bien, mais voilà, coup de théâtre à la dernière réunion, c'est cet ensemble qui a l'air d'être plus réticent. Donc voilà, donc on va reprendre notre petit bâton de Pierre Pellerin et on va essayer de savoir pourquoi ils sont réticents, et puis de pousser à ce qu'il n'y ait pas un seul dispositif de protection, mais plusieurs qui s'additionnent, en fait.
Et là, donc, on va traverser un enclos dans lequel il y avait, il y a encore 7-8 ans, des jeux pour enfants qui ont été démantelés, qui ne sont plus là. Et donc on a détruit, globalement, pour résumer la situation, on a détruit un morceau de forêt, on a dépensé des centaines de milliers d'euros pour refaire les mêmes jeux qui étaient ici et qui ont été abandonnés, là. Et tout à l'heure, on va terminer sur un terrain de basket qui va être bientôt transformé en immeuble construit par BNP Paribas Immobilier. Ça dit tout, c'est-à-dire qu'on construit pour les gens sans dette pour habiter. Voilà. Et le terrain de basket détruit devrait être installé ici, à la place du terrain de jeu qui a été déplacé ici.
Alors, je vais juste repréciser aussi, donc tous ces projets, on l'a vu sur l'usine de TMB, sont très coûteux en termes d'argent public. Donc c'est 38 millions qui ont été votés depuis les années 2000, donc on ne sait pas exactement combien ont été dépensés, mais 38 millions votés hein, de crédit. Et avec ça, on a cette partie de jardins familiaux, on a une allée dans un autre parc, on a une esplanade devant notre mairie qui avec une fontaine qui ne fonctionne pas, donc très peu de choses au final. Et puis l'offre de cette base de loisirs, elle est très très faible par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Et sur 4 hectares, là, c'est 4 hectares et demi qui vont être ouverts au public, c'est 14 millions, dont 8 pour le comblement. Donc il y a aussi une question, c'est quoi la priorité aujourd'hui dans le 93? Enfin voilà, il n'y a pas de lycée à Romainville, il n'y a pas de commissariat sur nos villes. Voilà, et par contre, on met quand même 14 millions pour 4 hectares de forêt, ce qui est un très très gros budget en termes d'aménagement de parc.
Donc bon, on va traverser l'enclos et être un peu plus haut pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur les travaux qui sont en cours et la renouée du Japon et rendre hommage à la renouée qui a sauvé la forêt.
Ouais. On souhaite le même avenir que ce parc, ce qui quand même, vu les gens qui vont le gérer, est quand même un scénario probable, tout à fait, du futur. Voici la base de loisirs dans 15 ans. Alors à au moins retrouver sa vie.
Ouais, on disait, on est ici, on est à la fois dans le passé, on voit ce qui reste d'un espace de jeu financé par le département, on crée quelque chose, on n'entretient pas, on détruit, et donc on peut imaginer que c'est le futur de ce qui sera fait en face. Hein, pour tous les millions d'euros dépensés, on aura des installations qui seront abandonnées au bout de 7-8 ans. Donc une vision du futur de la base de loisirs de la région.
Juste préciser que les budgets de fonctionnement, c'est ce qui fait le succès des parcs urbains. S'il n'y a pas de budget de fonctionnement, comme c'est le cas ici, ça va être très très compliqué.
Et là, il n'y en a pas.
Et ici, zéro budget de fonctionnement. Voilà. On va monter encore un peu plus haut pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Vous observez autour, enfin, le parc, il est vivant, il est chouette. Il y a plein de barbecues partout.
Ça va.
C'est le seul
obstacle
du
chemin.
Ouais,
ça va.
Ok, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Ouais. Donc voilà, là on a une vue sur un beau massif de renouée du Japon derrière. Hein, derrière le rouleau rouillé. Donc vous voyez, tout ça, c'est les parties qui ont été défrichées pendant l'hiver. Donc ce gros massif de plantes. Alors Jean-Charles dira des choses scientifiques, moi je dis des choses poétiques et politiques. Toute la zone qui est là, les arbres qui sont devant nous, ont été préservés parce qu'il y avait de la renouée du Japon. La renouée est une plante qui prolifère très vite si on l'a. C'est une plante rhizomatique, donc si on y va au bulldozer, tout ça, tout ce que vous avez vu qui a été défriché, c'est vraiment une transamazonienne dans la jungle, ce qui a été tracé. On sentait ça. C'est des bulldozers qui ont tracé des voies, des routes. Ça sent, vraiment, c'est le sentiment qu'on a eu quand on a vu ce chantier. Sauf que la renouée était protégée, était balisée, il ne fallait pas rentrer dedans. Alors ils sont rentrés, on les a vus, on leur a dit, ils s'en foutaient. La présence de la renouée dans tout ce bosquet qui a fait que le bosquet n'a pas été défriché. Donc finalement, les militants ont beaucoup parlé, beaucoup bougé, mais ils sont totalement nazes. La seule militante sérieuse qui défend une forêt, c'est la Renouée. Donc je propose qu'on rende ici un hommage solennel à la Renouée du Japon, qui a sauvé au moins 4 hectares, enfin, combien d'hectares de forêt ici. Et Jean-Charles va dire un truc plus sérieux.
Non, c'était très sérieux. Donc la Renouée au Japon, elle est réputée envahissante en fait, dans le jardin parce qu'elle pousse très bien. Comme dans son état naturel, enfin dans son biotope naturel au Japon, elle pousse sur des endroits où il y a du fer ou sur les anciennes carrières de fer. Donc en fait, elle accepte dans ses tissus les métaux lourds, y compris le fer, plus facilement que les autres plantes. Et donc c'est pour ça qu'elle pousse en bosquet comme ça, parce qu'en fait elle supplante les autres graines qui sont dans le sol. Peut-être qu'elles vont germer, mais comme la renouée elle pousse très vite, très haut, et qu'en fait elle est à l'aise contrairement aux autres plantes qui galèrent en fait dans les sols pollués, et bien du coup elle va supplanter tout le monde et elle va former de grandes populations comme ça. Et donc en fait dans plein de jardins qui sont pollués, il y a les jardiniers qui s'arrachent les cheveux, on va à la renouée du Japon, et alors qu'en fait ils peuvent pas s'en débarrasser, en vrai, comme tu dis. Tu vois, elle est réputée envahissante parce qu'il suffit d'un tout petit bout de rhizome dans la terre, voire d'un tout petit bout qui est passé, vous voyez, les espèces de tondeuses, là, les débroussailleuses. En fait, si vous avez un bout de tige avec un bourgeon, quelque part, un nœud, en fait, voilà, et ben ça peut suffire, dans des conditions adéquates, à faire repartir une plante qui, elle-même, par drageonnage, tu vois, enfin, voilà, va faire une population. Donc en fait, en général, les gens, ils n'en veulent pas du tout, parce que dès qu'elle est là, en fait, elle, dans les sols pollués, elle supplante toutes les autres plantes. Et en fait, c'est très très gênant, parce que si on commence à s'intéresser au pourquoi du comment, ça veut dire que le sol, il est tellement pollué. Ici, en Ile-de-France, il n'y a pas beaucoup de zones minières de fer. Hein. Vous imaginez, c'est très sédimentaire. Comme je disais tout à l'heure, c'est très du gypse et tout, du calcaire, etc. Donc il n'y a pas de fer là-dedans. Donc si ça veut dire, si vous avez la renouée au Japon qui pousse en abondance et qu'on se pose la question, ça veut dire que le sol, il est pollué aux métaux. Vous voyez ? Si c'est pas du fer, c'est des métaux lourds. Place Carnot. Ouais.
Il y a tout un bosquet qui pousse.
Tout le monde entend ?
Alors, vous pourrez aller voir ça plus près, la renouée du Japon. Bon, pour l'instant, elle est haute comme ça.
Ouais.
Mais bon, ça montre bien qu'elle est sortie de la forêt.
Exactement. Bah, elle est présente un peu partout. De toute façon, dans la terre, il y a des milliers de graines et tout. Et peut-être que, voilà, il y a peut-être des graines de renouée du Japon. Donc là, elle va faire des fleurs bientôt. C'est très très joli quand c'est en fleurs. Et donc là, elle n'est pas au top de sa croissance. Mais si vous êtes déjà rentré, par exemple, l'année dernière, dans la forêt de la Corniche des Forts, avant qu'il y ait les travaux, en fait, à un moment, on passait sur un chemin. C'était la jungle, quoi. C'était super. Ah ben voilà. Ben en fait, il y avait un chemin. On passait dans le bosquet. Et en fait, on se croit vraiment, comme tu dis, en Amazonie, quoi. Voilà. Et c'est une plante annuelle. C'est-à-dire que chaque année, elle refait sa tige. Donc elle n'a pas de bois. Vous imaginez ? Ça veut dire que c'est tellement pollué qu'en fait, il n'y a que elle qui pousse.
Première qui pousse. De toute façon, à un moment donné, la nature se régule et la renouée cède le pas souvent à une autre variété.
Alors, on peut utiliser la renouée pour dépolluer les sols, ouais.
Oui.
C'est sur un traite comme un déchet toxique et tout. Et bah, si par exemple là, on la fauche et qu'on brûle, par exemple, je sais pas quoi, et puis après, on se démerde pour retirer avec des procédés chimiques ou comment on appelle ça. Vous savez, avec les aimantations là. Bon, voilà. Magnétique, merci. Par des procédés chimiques ou magnétiques, on peut en fait dépolluer la cendre et dépolluer le sol au fur et à mesure. Mais vous voyez, hein, c'est pas. Pour l'instant, les connaissances de biologie moderne et tout sur la bioindication des plantes et sur toute la microbiologie, les choses qui ont été développées par Dusserf, comment il s'appelle, le couple de microbiologistes qui est hyper connu là, enfin. Bon, voilà, c'est ça, c'est des Français quoi, qui travaillent au CNRS et des compagnies. Toutes les connaissances de biologie moderne qui ont été développées par eux, elles ne sont pas appliquées, vous voyez, ici. Donc on a des gens brillants qui travaillent dans les centres nationaux de recherche, mais en fait, les politiques ne sont pas au courant. Enfin, en tout cas, là, ceux qui sont là.
Oui, elle est comestible, mais c'est pas recommandé de la manger quand elle pousse ici. Oui.
Carrément.
Donc juste. On pourrait rester des heures à parler tellement c'est passionnant de cette forêt, mais on doit monter pour la dernière étape à Gagarine. Et l'idée de monter jusqu'à la cité Gagarine, c'était pour bien vous faire comprendre le lien qu'il y a entre l'aménagement de la forêt et la destruction de la cité, et la création de Fiminco, la fondation Fiminco, le village des marques. Tout l'ensemble de la transformation, on est dans une phase de renouvellement complet C'est un nouveau paysage urbain, c'est un concept développé par les promoteurs, notamment par Next City, qui est donc avec Fimenco, l'autre gros promoteur qui fait les grosses opérations à Romainville. Il y a un petit AB Group qui fait les petites opérations, qui sont plein les poches, mais Next City, on verra une construction, et a une direction du nouveau paysage urbain, qui a recyclé l'ancien directeur du cabinet de Claude Barthelone, qui est le grand penseur derrière toutes ces opérations. Donc, on va rendre un grand hommage à Claude Barthelone dans la cité Gagarine. Et pour bien comprendre, c'est vraiment créer un parc pour valoriser un nouveau quartier et chasser les habitants et faire venir des nouveaux habitants, pas forcément plus riches, mais qui vont s'endetter pour habiter dans des bâtiments de mauvaise qualité à la place de beaux HLM des années 60. Donc on va monter tranquillement sur la cité. Sauf si vous avez des remarques, si quelqu'un veut dire quelque chose sur la forêt.
Il ne les chasse pas, les habitants de Gagarine. Il les déplace.
Oui, il les déplace.
Dans des meilleures conditions d'immeubles entretenus. Parce que là, ils ont un peu forcé sur le
détail. Attends, malentendu. Mais on va en parler, je pense, cette question de renouvellement et de destruction.
Sylvain.
Oui, pardon. On est dans le camp.
Donc il y a des choses qui sont intéressantes à observer. C'est que, enfin là on va tout à l'heure on va parler de l'ensemble de logements du quartier Gagarine, mais j'en parlerai plutôt tout à l'heure. Mais là je voulais quand même déjà attirer votre attention parce qu'on retrouve exactement la même chose sur les prospectus qui présentent le projet de rénovation de l'ensemble de logements de Gagarine, du quartier Gagarine, qui est un peu consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, ou alors c'est des trucs qui sont préformatés dans les logiciels. La vision de l'avenir qu'ont les porteurs de ces projets. Comme vous avez constaté dans le parc qu'on a traversé, on est dans un quartier populaire. En fait, Romainville est une ville très populaire, comme le sont en fait les villes du nord-est de Paris historiquement, et c'est que vraiment récemment, on va dire sur les 20 dernières années, qu'on a vu progressivement notamment des classes moyennes arriver un peu plus à chercher à s'implanter. Mais donc là, ce que disait Sylvain tout à l'heure en parlant du Petit Pantin, donc le quartier qui se construit sur le bord du canal, c'est vraiment une accélération majeure d'un phénomène qui jusque-là n'avait pas connu une telle amplitude ici. Et donc ce qu'on voit en fait, ce qui est représenté, c'est vraiment ce qu'ont dans la tête les porteurs de projets. Et donc là, vous pouvez constater tout à fait qu'on n'est plus du tout, il semble que la population ait été remplacée, à moins que mon imagination me joue des tours et je suis fatigué, mais je crois que je vois encore assez clair sur le fait que nous n'avons plus les mêmes personnes qui habitent ici que celles qui habitent maintenant, et on va en parler plus longuement tout à l'heure. Mais je voulais juste attirer votre attention sur ce détail, cette curiosité très intéressante.
C'est pas flippant. Dans le village olympique, ces gens-là sont flippants. N'ont rien à voir avec les gens qui habitent à Saint-Denis, à
Ah non, mais.
Ce coin-là de Saint-Denis.
Moi, ils me terrorisent en fait. Et je me dis, mais. Ah, mais ça c'est purement d'héritage. C'est raciste au possible. Mais en fait, le truc, c'est que même tu vois, c'est leur faire un photomontage, mais dire. Regardez ce qu'on s'y met, comment c'est bien. Ici on est sur l'ensemble, un grand ensemble de logements qui s'appelle le quartier Gagarine, mais Mohamed Bougamani qui est ici présent vous en parlera plus tout à l'heure. Moi, dans le de Toxic Tour, la mission qui m'avait été, parce que par ailleurs je travaille aussi, j'anime une campagne pour la rénovation énergétique des logements. Moi, quand l'idée générale ici, en fait, c'est de vous faire comprendre que le lien qu'il y a entre la destruction de la forêt et la base de loisirs, c'est parfaitement lié en fait à la destruction, l'opération de destruction et réhabilitation de la cité Gagarine. Et en fait, comme on l'a vu précédemment, le projet de île de loisirs ou base de loisirs est tellement ridicule en soi qu'en fait, ça, il est naturellement, en fait, pour nous dans notre esprit, une justification, uniquement une justification de l'opération immobilière gigantesque qui se passe ici. En fait, là, on a un ensemble de plus de 750 logements. 782, voilà, exactement. Et dont, si mes recherches sont bonnes, 475 vont être détruits. Détruits, hein. Donc ça veut dire les deux tiers des logements qui sont présents là. Donc il y a environ 3000 personnes qui habitent, si je me trompe pas. Voilà, donc deux tiers de ces familles vont donc devoir chercher au moins un nouveau chez eux. Mon approche, moi, c'est de dire que dénoncer un peu la toxicité de la démarche, en fait, qui consiste à raser une forêt pour mettre en valeur une opération immobilière, hein, et qui en fait aussi une opération toxique, et donc ça, on le verra, de déguerpissement de la population. Moi, je vais juste revenir sur l'équation de pourquoi, c'est absurde, notamment du point de vue climatique et énergétique, de détruire pour reconstruire. Et puis après, j'irai un peu plus sur qu'est-ce qui se cache derrière l'idéologie de la destruction, notamment au niveau des grandes opérations ici, île en rue. Donc il faut voir que ce bâti existant, en fait, il constitue en fait un considérable patrimoine en énergie et en carbone, et notamment si on reprend toute l'analyse en bilan du cycle de vie. Et la question qu'il faut se poser, si on réfléchit comme ça, c'est combien de temps il faudra au bâtiment neuf pour amortir le coût énergétique de sa construction et de la démolition qui l'a précédé. C'est ça l'équation qu'il faut essayer de réfléchir. En fait, si on regarde pour des opérations de ce type, la balance donc, entre ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est toute l'opération de démolition-reconstruction, parce qu'il faut de l'énergie pour démolir, il faut de l'énergie pour amener, construire, fabriquer les matériaux, reconstruire, la balance en fait entre cette énergie grise et l'amélioration des performances énergétiques du nouveau bâtiment, il faut absolument imaginer se projeter sur plusieurs dizaines d'années d'exploitation. Donc là, il faudrait faire le calcul précis sur un ensemble de ce type-là pour un usage de logement à logement, parce qu'on a des opérations qui sont plus ou moins absurdes. Quand on détruit un bâtiment tertiaire pour reconstruire un bâtiment tertiaire, là, on est vraiment dans un truc délirant, absurde au total. C'est un peu moins vrai pour les opérations de logement, mais ça reste vrai quand même. Ça reste très vrai quand même. Donc, parce qu'il faut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années d'utilisation dans les conditions de performance nouvelles. Si on compare à l'historique de vie, en gros, de cette cité, de cet ensemble de logements, je ne sais pas depuis combien de temps elle existe, 50 ans, 60 ans. Depuis 1965, donc ça fait 55 ans, hein, on va dire. En fait, on imagine déjà que ce bâtiment-là, si on le compare en fait à son historique de vie, on peut imaginer que dans cette logique, le nouvel ensemble qui va être construit ne sera pas encore en fait rentabilisé écologiquement au moment où on va décider de le détruire pour le remplacer par autre chose. Ce qui est, c'est pas le cas de cet ensemble-là, parce qu'avant il n'y avait rien. Et donc en fait, le nouvel ensemble qui va arriver, il va arriver sur une situation où il va hériter déjà d'un passif écologique et énergétique, enfin en CO, en émissions de gaz à effet de serre et d'énergie, qui est considérable par l'opération de destruction, et quasiment impossible à rattraper. Je vais me dépêcher quand même pour la suite. Donc là, on a une opération. Il faut savoir que chaque logement détruit fait l'objet d'une subvention de 17 400 euros par l'ANRU, donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'accompagnement à les moyens publics à la destruction, et que sur le bilan, les chiffres que j'ai trouvés, donc en 10 ans, 2004-2014, on a détruit 151 500 logements en France. Donc dans un pays où particulièrement on manque de logements, c'est quand même, et alors, sachant que la plupart des destructions se font dans des opérations de ce type-là. C'est exactement ce type-là. Zone dense, reconstruction, et le reste, c'est très marginal. Hein. Quand on vous dit les bâtiments sont vacants, pas utilisés, ou beaucoup trop usés et trop abîmés pour faire autre chose que d'être détruits, c'est hyper marginal. En fait, le discours général, il a évolué vers une banalisation, ce qu'on appelle une banalisation de la démolition. Et alors l'accompagnement qu'il y a de cette banalisation de la disposition, ce qui sert le discours, c'est les enjeux de mixité. Et alors ici, on nous le sert vraiment à plein. Ça tourne à plein régime de la mixité. Et nous, on est des gens qui sont contre la mixité. On veut que les gens, les pauvres, ils restent entre eux. Et voilà, c'est exactement ça qu'on nous dit. Et en fait, le discours et l'idéologie sur ces 20 dernières années va faire transformer en fait l'opération de destruction-reconstruction va être habilitée comme quelque chose d'extrêmement qualitatif. Tandis que la rénovation, en fait, ce serait l'intervention des pauvres pour les pauvres. Hein, ouais, sauf parce que, évidemment, quand ils interviennent en rénovation, ils ne font pas exactement ce qu'il faut pour avoir une rénovation qui mette les trucs à des niveaux de standing qui seraient tout à fait possibles et tout à fait bien pour les habitants. Et donc, en fait, cette logique-là, cette rhétorique-là, elle a été développée par des responsables politiques qui s'auto-dénomment progressistes. Et notamment une personne qui est bien connue dans ce secteur, qui s'appelle M. Claude Barthelon, qui en 2000, à l'époque, était ministre délégué à la ville, et qui s'est auto-congratulé plusieurs fois, on retrouve ça dans des déclarations de commissions parlementaires, comme un des grands artisans de la facilitation publique des opérations de démolition. Et ce sera ma phrase de conclusion, en fait, derrière la démolition, se cache en fait l'illusion, pour eux, hein, vraiment, qui consiste à penser qu'on va résoudre les problèmes sociaux en faisant disparaître le bâti qui les abrite. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à combattre.